Du jour, hein. Luc chapitre 1, versets 39 à 45. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Le chapitre 1 de l'évangile de Luc aborde deux naissances miraculeuses. Le miracle de la naissance du Messie et celle de son précurseur, Jean. Deux grands miracles. Luc met en scène les premières personnes concernées par les deux naissances, Élisabeth et Marie. Luc nous raconte à sa façon des événements et des relations humaines qui pourraient à première vue n'être que des anecdotes, alors que si on regarde de plus près, elles portent les germes du royaume de Dieu. Mais revenons un peu avant notre passage, au verset 35. Un ange du Seigneur dit à Marie: « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Marie est en train de vivre un miracle. Car elle est enceinte sans avoir eu de relation sexuelle. C'est un véritable miracle. Impossible. Et ça l'est devenu. Cependant, à cette époque, c'était très mal vu d'avoir un enfant hors mariage. Qui pouvait croire Marie? Est-ce que tous les gens l'ont cru? La Bible ne nous le dit pas. Une personne m'a dit un jour qu'un miracle n'est véritablement un miracle que pour celui qui le vit. Et il me disait cela pour me dire que personne ne peut imposer un miracle aux autres. Un miracle est quelque chose d'inexplicable. Même la science ne peut pas l'expliquer. Du coup, nombreux sont les personnes qui doutent des miracles quand on leur raconte. De nombreuses personnes me racontent que des gens autour d'eux ont été guéris par le Seigneur. Jusque-là, rien d'anormal. Quand j'étais à la pastorale vendredi, un pasteur me raconte, il prie régulièrement pour les malades, il me dit: on a prié pour une personne qui avait une jambe plus courte que l'autre, et alors on a prié et la jambe s'est rallongée. Et je demande pardon, hein, je pars avec mon cœur, hein, mais quelquefois j'ai du mal à croire. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas vécu, moi, ce miracle. Et pourtant d'autres personnes m'ont raconté aussi ce genre de miracle. Et je reste toujours un petit peu incrédule, mais je veux y croire, j'y crois. Je sais que c'est possible. Voilà, je suis convaincu que c'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai ou c'est vrai, mais voilà, c'est pas facile. Et puis vous savez, en Amérique, il y a des stades, quelquefois ils prient pour les malades, et puis il y a des gens qui se lèvent. Et je dis la vérité, il y a des malfrats. Il y a des gens qui font semblant d'être malades et ils se lèvent. Alors ils font vraiment une mauvaise publicité. Et puis il y a des vraies personnes qui sont handicapées, qui se lèvent et qui sont guéries. Mais c'est difficile à croire quand on n'a pas vécu. J'avais ma grand-mère qui était handicapée, je priais tous les jours pour elle, et elle est morte handicapée. C'est pas facile de croire un miracle. Alors quand il est raconté dans la Bible, vous voyez, c'est bon, mais pour les gens qui étaient autour de Marie, est-ce que c'était si évident que ça, que c'était le miracle de Dieu? Et pour revenir au miracle de la naissance de Jésus, une fois j'ai entendu un chrétien dire, un chrétien, bon, il se disait chrétien, il disait, mais oh, Joseph, il avait beaucoup de courage. Et je dis pourquoi? Parce que Marie l'a trompé avec un soldat romain et il est quand même resté avec. Je dis si. Il y a quelques années, on pouvait dire des bêtises pareilles, mais à l'époque de Jésus, qu'est-ce qu'il pouvait se dire? Qu'est-ce qu'il pouvait se dire? Et ça n'a pas dû être évident pour Marie. Elle a vécu un miracle, et à la fois, il y a tous ces gens incrédules autour d'elle. C'est tellement dur de vivre un miracle et de ne pas être compris par les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Si vous avez déjà vécu un miracle dans votre vie, vous avez voulu le dire aux gens, et les gens, ils vous ont pris pour un fou ou ils n'ont pas du tout cru. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais à peu près 16 ans, j'ai vécu un miracle dans ma vie. Pendant un camp scout. Alors moi j'étais luthérien, bon vieux luthérien, voilà. Et puis j'ai été dans des éclaireurs évangéliques. On me dit évangélique, c'est bon, hein, dès qu'on parle de miracle, ça doit être bon. Et durant ce camp, c'est la seule fois de ma vie, le Seigneur m'a donné cette grâce de pouvoir voir des anges. Et quand j'ai vu ça, j'ai été bouleversé. J'ai raconté ça à la première chef que j'ai rencontrée. Et j'ai tout de suite été convoqué par le directeur qui m'a pris pour un cinglé. Et me dit, mais qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que machin? Et à force de questions et tout, je me disais, mais j'ai dû rêver, j'ai dû halluciner, c'était pas vrai. Et c'est dur. C'est dur quand les gens ils vous prennent pour un cinglé alors que vous leur racontez un miracle que vous venez de vivre. C'est tellement dur. Mais le Seigneur est là. Et le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Et qu'est-ce qu'il va faire à Marie? Eh bien, il va dire quelque chose d'important par un ange. Au verset 36, voici ce que le Seigneur dit à Marie. « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui est appelée stérile est dans son sixième mois. » Mais quelle belle nouvelle pour Marie! Le Seigneur lui dit, mais ta parente vit un miracle aussi. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux? Grâce à la parole de Dieu, Marie sait qu'elle peut en parler à quelqu'un et que quelqu'un va pouvoir la croire, l'aider, l'exhorter. Ne pas la prendre pour une folle, ne pas la prendre pour une adultère, mais pour la prendre pour la foi qu'elle avait. Élisabeth pourra mieux comprendre Marie, car elle vit aussi un miracle qui est un peu similaire. Cela fait du bien de parler avec des gens qui nous comprennent. Ça fait du bien. Ça exhorte nos fous. Et c'est souvent pour ça que les groupes de maison aussi ont beaucoup de succès, parce que c'est un moment où on peut parler. Parler de notre vie. Parler de ce qu'on a vécu et avoir d'autres personnes à côté qui puissent nous exhorter, nous aider, parce qu'ils nous comprennent, parce qu'ils vivent les mêmes choses. Quand on travaille, on se moque de nous parce qu'on est croyant, parce qu'on prie avant de manger, etc. Mais d'avoir d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, mais c'est important. Moi, quand j'étais aux éclaireurs évangéliques de France, ça me faisait beaucoup de bien parce que je retrouvais des jeunes qui vivaient les mêmes choses que moi au collège, au lycée, aux études. Et ça fait du bien de parler avec eux. Quand ce directeur moquer, il a dit aussi une autre chose. Il m'a rouspété après, parce qu'il m'a dit que j'avais manipulé des jeunes qui avaient vu une sorte de main dans le ciel qui se dirigeait vers moi. Et moi, j'en avais parlé à aucun jeune. Et bien, j'ai pu, dès que je suis parti, il y avait un bureau, je ne sais pas, c'est un des seuls camps où le directeur avait un bureau pendant une nuit dans la forêt, mais bref. Je suis parti et j'ai tout de suite cherché ces jeunes. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai cherché ces jeunes. Et j'ai parlé avec ces jeunes. Et du coup, j'ai pu à nouveau être exhorté dans ce que j'avais vécu. Et j'ai pu comprendre ce que le Seigneur avait voulu me transmettre à travers ce que j'avais vu. Mieux comprendre ce que j'avais vécu. Parce que j'étais avec des personnes qui avaient vécu une partie de ce miracle. Le monde dans lequel nous vivons est souvent hostile à la parole de Dieu et au miracle de Dieu. Il est important de s'entourer de personnes croyantes afin d'être encouragé. Faisons attention aux personnes qu'on s'entoure. Quand j'étais à la faculté, une fois j'étais entouré de personnes, de pasteurs, de notre union d'église bien sûr, qui me disaient « mais les miracles de Jésus, en fait, tout s'explique par la science. En fait, ce n'est pas vraiment des miracles. Quand Jésus marche sur l'eau, en fait, il marchait sur des graviers. Quand Jésus multiplie le pain, en fait, c'est pas vrai. C'est juste que l'enfant a sorti du pain et que tout le monde avait honte et que tout le monde sortait du pain, etc. » Puis tous ces gens expliquaient les miracles de Jésus de façon scientifique. Et moi, ça me bouffait la tête. Et j'étais obligé d'être avec ces gens pendant une année et ça m'a fait du mal. Et dès que j'ai pu aller avec d'autres pasteurs qui croyaient vraiment au miracle de Jésus, ben, ça m'a libéré, ça m'a fait du bien, je pouvais revivre ma foi. Faisons attention avec les gens que nous côtoyons, parce qu'ils peuvent être soit nocifs pour notre foi, soit ils peuvent être abondants pour notre foi. Mais faisons attention. Vraiment, les personnes qui nous entourent auront une influence sur notre foi. Et la Bible nous dit de bien nous entourer, de ne pas nous assire. Nous asseoir avec les moqueurs, etc. Prenons le temps de nous réunir le jeudi entre croyants pour prier, pour nous exhorter autour de la parole. C'est important pour notre vie. Prenons le temps d'aller à ces temps d'évangélisation parce que, oui, on évangélise, mais on vit aussi des temps ensemble, on s'exhorte ensemble et c'est formidable. Comme Marie avec Élisabeth, ils vont s'exhorter. Mais je ne sais pas ce qui a été dit. J'aurais bien aimé être une petite souris et voir tout ce qui s'est dit, mais je pense qu'elles se sont vraiment exhortées, qu'elles se sont portées dans la foi, qu'elles se sont consolées. Dans une même période, deux enfants vont naître d'un miracle. Lequel sera le Messie, Jésus ou Jean? Alors bien sûr, nous savons tous la réponse. Et nous disons Jésus, mais à l'époque, la question se posait. Et c'est aussi pour ça que Luc écrit ce passage. Parce qu'il veut bien préciser que le Messie, ce n'était pas Jean, mais bien Jésus. Pour nous, c'est une évidence. Car nous avons la Bible, c'est une évidence que Jésus est le Messie. Mais à l'époque de Jésus, je le répète, cela ne l'était pas. Jean est le plus vieux. Il est plus vieux que Jésus. Jean est celui qui a la meilleure situation sociale, car il a des origines sacerdotales. Il est le fils d'un prêtre, alors que Jésus est le fils d'un charpentier. Le miracle de la naissance de Jean était reconnu de tous. Je veux dire, il était beaucoup plus simple à reconnaître, parce qu'Élisabeth était stérile et elle a eu un enfant. Alors que le miracle de Marie était beaucoup plus dur à croire. Elle était jeune. Elle pouvait avoir des enfants. Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfants. Finalement, Jésus n'avait pas la meilleure situation des deux. Rappelons-nous, il est né dans une étable. Et pourtant, c'est lui le Messie. C'est lui qui est venu pour nous. C'est lui qui nous comprend. Élisabeth était peut-être celle qui méritait le plus d'avoir pour enfant le Messie. Mais Dieu ne regarde pas au mérite. Et tout ce qu'il donne est cadeau et grâce. J'aurais pu vous dire, il ne regarde pas au mérite, mais il regarde au cœur, mais on resterait encore dans des œuvres. Non, tout est cadeau avec Dieu. Tout est cadeau. Si dans ta vie tu rencontres des problèmes d'addiction et que tu penses que tu ne pourras jamais t'en sortir, Dieu peut t'en sortir de façon gratuite et instantanée. Tout est grâce avec Dieu. Demande pardon au Seigneur, prie et il exaucera tes prières. Par grâce. Mais revenons à notre récit. Luc, l'auteur de ce passage, veut dire à ses interlocuteurs que c'est bien Jésus le Messie. Alors il écrit, « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. » C'est la première fois que Jésus et Jean se rencontrent. Enfin, moi, je pense qu'on existe même quand on ne sort pas du ventre de la mère. Donc, ils existaient, ils se sont rencontrés. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, Jésus transmet déjà cette puissance de Dieu. Il est le Messie. Jean ressent la présence de Jésus et sa mère est remplie du Saint-Esprit. Il n'y a aucun doute pour Luc, c'est Jésus le Messie. Et même avant sa naissance, Jésus transmet la puissance de Dieu. Il est Dieu dès l'origine. Un jour, j'ai vu un film, ça m'a fait beaucoup de mal. C'est sage qui a annoncé l'enfance de Jésus. Et puis, c'est selon l'évangile de saint Thomas. Alors, Jésus ne sait pas qu'il est Dieu, et puis il va découvrir qu'il a des pouvoirs. Et puis, sans exprès, il va tuer un enfant. Et puis, il va le ressusciter. Et enfin, je ne pouvais plus, moi, de ce film. J'ai l'impression de voir Superman Junior. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Pour moi, c'était blasphématoire. J'ai appelé ça. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas que vous puissiez transmettre des films pareils. Non, dès que Jésus a existé, il était Dieu. Il n'est pas devenu Dieu, il était Dieu. Il savait qu'il était Dieu. Il a été le Messie dès l'origine. Ce n'est pas un Superman ou je ne sais trop quoi qui découvre ces trucs, non. Et ce qui est magnifique aussi dans notre passage, c'est que donc Élisabeth reconnaît le miracle de Dieu et elle dit « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Dit autrement, l'enfant n'est pas le fruit d'un péché. S'il est béni, c'est qu'il n'est pas le fruit d'un péché. Elle reconnaît le miracle de Dieu. Et elle va même plus loin. Moi, je dirais que là, nous avons la première confession de foi dans l'évangile de Luc, quand elle dit, Élisabeth, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? La mère de mon Seigneur, elle le reconnaît déjà, Jésus, comme Seigneur. Il n'y a plus aucun doute pour Luc. Jésus est bien le Messie. La présence de Jésus dans notre vie est quelque chose d'extraordinaire. Car il nous donne la paix, la joie, la confiance en l'avenir. Car nous savons qu'il tient tout dans ses mains. Cette présence de Jésus, tout homme ou toute femme peut la ressentir. Du moment qu'il demande à Dieu de venir le rejoindre dans sa vie et qu'il confesse Jésus comme Seigneur. C'est gratuit. Et Élisabeth dit également, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et là, tout de suite, pour les lecteurs de l'évangile de Luc, on fait automatiquement le rapprochement avec ce qui a été dit juste avant. Zacharie, le mari d'Élisabeth, qui était un prêtre, et qui donc avait l'habitude normalement de la présence de Dieu et qui n'a pas cru. Il n'a pas cru. Vous savez ce qui est arrivé, il est devenu muet jusqu'à la naissance de Jean. Mais quand l'ange a visité Marie, elle a cru en la promesse de Dieu qui lui était annoncée. Marie est le témoignage de la croyante qui, sans comprendre comment ça va se réaliser, sait que ça va se réaliser. Elle ne comprend pas tout, mais elle fait confiance à Dieu. Elle fait confiance à Dieu. Elle sait que ça se réalisera. Quelquefois, il y a des situations qui nous échappent complètement dans notre vie. Il y a des situations qui nous échappent. Et nous ne savons pas comment nous pouvons nous en sortir. Mais Jésus, lui, sait comment nous pouvons nous en sortir. Et dans un acte de foi, nous pouvons dire, « Seigneur, viens à mon aide, car je sais que tu vas me sauver. » Et il nous sauvera. Et souvent, j'ai fait cette prière dans des situations où les plus classiques, c'est quand il y a des embrouilles entre les personnes. Alors, on dit trop de choses et puis on ne sait plus du tout comment on va s'en sortir. Et je dis, mais voilà, Seigneur, toi tu sais. Pardon pour ce que j'ai fait, mais aide-moi. Et le Seigneur intervient. Ou dans les situations les plus dures, quand j'ai perdu mon papa, je dis, mais voilà, Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais toi tu sais toutes choses. Alors, conduis toutes choses. Et nous avons eu des moments de joie en sa présence. Oui, il y a des situations qui nous échappent, mais jamais à Dieu. Et en ce moment, nous pensons tous au Covid, nous pensons tous au confinement. Dieu sait toutes choses. Ne nous stressons pas avec tout ça. Serait-ce le prochain à avoir ? Ne nous stressons pas avec ça. Mettons notre présence, notre vie dans les mains du Seigneur. Seigneur, ma vie t'appartient. J'ai confiance en toi. Tu guideras toutes choses. Oui, en ces temps difficiles, continuons à avoir les yeux fixés sur Christ. Il nous aime, c'est une certitude. Et nous savons qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est une autre certitude. Et la parole nous dit au psaume 37, 28, « Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. » Amen. Marie était sous la garde de Dieu. Et il a pris soin de Marie dans les détails. Il a permis qu'elle puisse aller voir Élisabeth, sa parente, pour qu'elle puisse passer des moments quand même agréables, pas des moments où tous les gens la regardent et lui disent « mais tu es une adultère ». Parce que sûrement que ça devait être le cas. Si aujourd'hui les gens disent des bêtises pareilles, pardon de dire, mais je suis quasiment convaincu qu'à l'époque, il y a des gens qui ont dû lui dire ça. Mais là, elle était loin de son village, elle était avec Élisabeth qui la comprenait et qui a pris soin d'elle. Et Dieu a pris soin de Marie à travers Élisabeth. Et Dieu prend soin de chacun d'entre vous par intermédiaire de d'autres personnes. Mais sachons le reconnaître. Sachons voir à chaque fois que Dieu vient à notre aide et nous aide à travers d'autres. Et quelqu'un me disait, mais nous sommes quelquefois tous des anges dans la main du Seigneur pour quelqu'un. Dieu nous utilise souvent pour aider les autres. Ne cherchons pas toujours les miracles extraordinaires. Oui, c'est formidable ce miracle de Jésus qui est né comme ça, mais il y a d'autres miracles qui sont moins spectaculaires, qui sont tout aussi profonds. Nous vivons des miracles quotidiennement par la grâce de Dieu. Sachons les voir, sachons les reconnaître, sachons dire merci au Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu prends soin de nous dans les moindres petits détails. Merci Seigneur parce que nous sommes dans ta main. Et que dans ta main tu nous conduis. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es venu sur cette terre et que tu vas revenir nous chercher. Amen.